Bon, bien vous pouvez... Ah, bah, c'est bien votre émission, alors faites-la bien.
Vous pouvez me refaire la corne de brume, s'il vous plaît?
Non, je ne fais qu'une.
D'accord. Qu'est-ce que vous regardez en famille comme film? Il y a des films fétiches chez les Gaillet?
Voilà, alors j'assume totalement. Oui, Superman, le premier avec Christopher Reeve, est mon film de référence.
Et vu et revu en boucle avec les enfants.
Bien sûr.
Ah, bah, dis donc, les porcs.
Ouais, alors là, je dirais pas ce que sur votre t-shirt, moi.
Oui, c'est vrai. Allez, à tout à l'heure, 11h. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie, en direct ou en podcast sur la toute nouvelle appli France Inter. C'est mercredi, le jour traditionnel dédié aux enfants et celui des sorties ciné, d'où l'idée de consacrer cette émission à l'éducation par le cinéma. Comment les films peuvent servir de support pédagogique? Comment le cinéma éduque le regard des enfants et des adolescents? Quelles valeurs peut-on transmettre à travers le cinéma? Pourquoi regarder des films développe par exemple leur empathie en leur montrant d'autres manières de vivre, de ressentir, d'habiter le monde? Invités, nous conseillerons également quelques films à voir avec vos enfants. Et vous, quels films regardez-vous avec vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces ou élèves pour leur éducation artistique, mais aussi pour leur transmettre certaines valeurs? Nous attendons vos témoignages par courriel, grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et bien sûr au standard de France Inter 01 45 24 7000. Colline et Chloé vous attendent. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez Il était une fois dans le web de Julia Foyce, la Scheherazade de la vie numérique.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Vous avez sans doute reconnu la bande originale de Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore. Et ce matin, pour évoquer les vertus éducatives du cinéma, Carole Desbarra, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes historienne du cinéma, ancienne directrice des études à la FEMIS, la grande école parisienne de cinéma. Vous êtes l'une des responsables de l'association Les Enfants de Cinéma. Vous nous expliquerez tout à l'heure les missions de cette association. Bonjour Perrine Boutin.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 3 Sorbonne, spécialiste de l'éducation au cinéma, et vous êtes également membre de l'association Les Enfants de Cinéma. Bonjour Guillemette Odissino.
Bonjour Ali.
Bienvenue, vous êtes journaliste à Télérama et chroniqueuse dans notre émission tous les vendredis. Le tout premier festival cinéma Télérama Enfants démarre aujourd'hui. C'est l'occasion de découvrir les meilleurs films jeunes publics de l'année 2016, ainsi que quelques avant-premières, c'est ça?
Absolument, on est tout fiers. On est tout fiers à Télérama. On faisait un festival pour les grands et on s'est dit, mais il manque un truc là. Donc on est tout content que naisse un festival Télérama pour jeunes publics.
Alors pourquoi les enfants conservent-ils toute leur vie des souvenirs liés à des films forts, comme dans Cinéma Paradiso de Giuseppe Tornatore? Carole Desbarra. Cette empreinte du cinéma dans l'esprit des enfants et qui reste quasiment à vie. Moi, je me souviens d'avoir vu à 7-8 ans Le Bal des Vampires ou Les Contrebandiers de Moonfleet. Je peux vous assurer que l'atmosphère de ces films-là continue encore aujourd'hui à me hanter, à m'habiter.
Oui, mais vous avez déjà donné une partie de la réponse. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est enfant et qu'on voit des films intenses, bons ou mauvais, c'est une autre question, on est marqué par la façon dont on est soi-même ému, dont on découvre un certain type d'émotion. Vous avez parlé des contrebandiers de Moonfleet. J'imagine qu'un petit garçon de 7 ans, quand il voit un enfant de 7-8 ans sur l'écran forcer un adulte à devenir son père alors que cet homme refuse de l'être, forcément, il y a quelque chose d'un désir de paternité, du roman que les gamins se racontent, qu'on se raconte tous, sur « mais non, tu n'es pas mon papa, mon vrai papa, c'est un tel, etc. » qui rejoignent à la fois l'intime de la construction de la personnalité de l'enfant et puis ce qui est sur l'écran.
Je vais m'allonger sur le divan du studio. Perrine Boutin.
Mais je rejoins tout à fait Carole sur ces questions-là. C'est sûr que c'est quelque chose qui marque intensément l'enfant, qui va l'accompagner, comme vous l'avez très bien dit, tout au long de sa vie, et qui l'accompagne comme le plus intime des compagnons.
Guillemette Odissino.
Puis il y a la notion d'histoire aussi. Quand on est tout petit, on a une voix aimante, maman, papa, qui nous raconte une histoire. Il était une fois. Puis tout d'un coup, on rentre ou dans une salle de cinéma, ça c'est le mieux, ou même on se met devant un écran de télé une fois plus d'ailleurs souvent avec quelqu'un qu'on aime. Et là, il y a des images qui nous racontent « Il était une fois ». Et cette incarnation, soudainement, d'une histoire avec... Si les parents ont bon goût, une histoire forte ou des images belles, bien filmées, c'est je pense que c'est un choc à la fois esthétique et affectif, enfin qui est énorme. Cette révélation que une histoire peut bouger devant ses yeux, qu'on peut être projeté dans une image.
Périne Boutin, ça consiste en quoi l'éducation par le cinéma ? Quel est le but ? C'est que les enfants voient des films ou qu'ils aillent au cinéma ? Que les enfants possèdent une culture ou qu'ils acquièrent une pratique culturelle ? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Non, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partager une culture commune, de voir des films qui sont considérés comme des films que tout le monde devrait connaître pour... avoir une culture commune, tout simplement, mais c'est aussi apprendre à s'approprier les images et à les faire siennes.
Carole Desbarra, l'école enseigne des savoirs fondamentaux, lire, compter, écrire. Pour vous, l'éducation par le cinéma devrait faire partie des apprentissages fondamentaux ?
Je vois que vous me connaissez bien, mais ça fait des années que je pilonne ça, oui. Je pense qu'il ne faudrait pas se contenter des fondamentaux lire, écrire, compter, mais que regarder et écouter devraient être ajoutés, mais très officiellement, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, une fois de plus, je le maintiens. Oui, absolument, les enfants sont, mais comment dire, dans une osmose avec les images. Ils sont saturés d'images. Moi, je ne fais pas partie des gens qui critiquent et qui disent qu'il y a trop d'images. C'est pas la question. Il y a un fait. C'est là. Donc l'éducation pourrait justement permettre de mieux s'en sortir face à cette masse. Et si vous permettez, moi je ferai une nuance entre éducation et enseignement. L'enseignement de l'image, ça existe en France et c'est exceptionnel. On est un des rares pays au monde où on enseigne le cinéma de la maternelle, si j'ose dire, mais pas vraiment, mais jusqu'à l'université, aux grandes écoles professionnelles. Ça n'existe pas ailleurs. L'éducation, c'est autre chose. L'éducation, comme l'a dit Périne Boutin, c'est une sensibilisation. L'enseignement, il y a un corpus. Il y a des choses à connaître. Un parcours à faire de A à Z. L'éducation, on essaie de vous mettre en contact avec des grandes œuvres et on espère, nous les adultes, que quelque chose va se produire.
Pouvez-vous nous expliquer l'émission de votre association, Les Enfants de Cinéma ? C'est montré dans le cadre scolaire des films du patrimoine ?
Oui, entre autres, effectivement, mais c'est probablement avant tout essayer de provoquer cette rencontre dont je vous parlais, c'est-à-dire cette rencontre avec des films choisis. Comme disait Périne Boutin, on essaie de montrer des films qui ont une grande qualité, mais qui peuvent aussi plaire et qui peuvent aussi émouvoir, faire rire, faire peur. Et on le fait dans un cadre un peu particulier, c'est sous l'égide du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale, ce qui n'est pas rien en France, parce que parfois ils ne se parlent pas, y compris sur des sujets qui leur sont communs, et avec une autre ambition qui est de montrer les films en salle, et avec un binôme qui est le professeur des écoles et l'exploitant de salle.
Guillemette Odissino, s'éduquer au cinéma, c'est aussi s'éduquer à la vie démocratique, à la vie en société, à la compréhension de l'être humain ?
Ah oui, absolument. Si je peux me permettre un témoignage personnel, j'ai toujours, dès qu'ils étaient tout petits, dit à mes enfants, s'il y a des choses que tu ne comprends pas dans la vie, ou s'il y a même des livres qu'on te demande de lire et que tu n'as pas envie de lire, au moins, regarde des films. Parce que dans les films, tu vas apprendre presque sans t'en apercevoir. Les enfants sont des éponges. Donc, ils apprennent les relations humaines. Ils apprennent comment à se comporter dans la vie amoureuse. Ils apprennent ce que c'est qu'être un citoyen. Alors évidemment, il ne faut pas leur montrer le Seigneur le Silence des Agneaux. Hein. Bon, mais voilà. Enfin, en revanche, oui, peut-être le Seigneur des Anneaux. Mais c'est fou comme on peut apprendre. Moi, j'ai énormément appris quand j'étais petite fille sur énormément de choses, presque. C'est ça qui est magnifique, sans avoir l'impression d'apprendre.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous appelez de Najac dans l'Aveyron, bienvenue.
Oui, c'est ça.
Et vous êtes enseignante.
Je suis enseignante en primaire, j'ai cette chance, oui. Donc je participe à une opération qui s'appelle École et Cinéma avec mes collègues. Donc il s'agit pour les enfants d'aller voir 3 films par an, que l'on appelle des classiques. Ces films sont projetés sur grand écran. Ils ne pourraient pas le faire autrement que par cette opération. C'est ce que j'y vois d'intéressant, c'est que des gens vont travailler en aval et en amont sur le langage cinématographique, ils ont appris plein de choses. Mm-hmm. La première des choses qu'ils ont appris, c'est que l'image, c'est pas la vérité. Donc ça développe aussi leur esprit critique, et c'est ça, moi, qui m'intéresse beaucoup, hormis le fait qu'ils voient des classiques pour la première fois sous grand écran. Je me souviens notamment d'un film dont j'ai oublié le nom, bien sûr, où l'hélicoptère, à la fin du film, au Moyen-Âge, décolle, oui. Et où les enfants me disent « Tu vois, maîtresse, eh ben, ça existe hein, au Moyen-Âge, l'hélicoptère, et on a tout décodé comme ça. » C'est une grande aventure qu'on mène depuis 10 ans. Les enfants sont motivés, me demandent de 3 fois dans l'année. Alors cette année, c'est quoi les films? Et puis c'est fantastique, quoi.
En tout cas, votre enthousiasme...
On peut faire passer plein de choses par l'intermédiaire du grand écran.
Votre enthousiasme est communicatif, en tout cas.
Donc ça me permet après de pouvoir leur parler de ce que je vois qui est à leur portée et inciter au moins les parents à les amener voir certains films. Voilà.
Et vous travaillez également sur le contenu des films, sur les valeurs que peuvent transmettre...
Oui. Déjà, dans un premier temps, donc en amont, il faut... je leur demande de repérer des choses, de repérer que fait tel personnage, comment ça se passe, quand il va se passer ça, etc. Pas grand-chose, 3-4 choses, parce que je veux qu'ils restent quand même sur l'histoire et sur l'image. Et la plus belle aventure que j'ai vécue avec eux, on a été voir des burlesques américains. Mmh. Donc, sans parole, je me suis dit, on va au casse-pipe. Et j'ai vu une salle de 200 enfants, parce qu'on n'est pas les seuls hein, ouais. à faire ça. Il n'y a pas que notre école. Muets, riant aux éclats. Et me réclamant après d'en voir d'autres, quoi.
Perrine Boutin brûle de vous répondre.
Non, mais tout simplement, Carole Esbarra et moi-même, nous regardons effectivement, vous participez, Laurence, à un dispositif qui s'appelle École et Cinéma, vous l'avez très bien cité, qui est piloté nationalement par les enfants de cinéma, l'association dont Carole Esbarra et moi-même faisons partie. Voilà, c'était...
Pardon, on est vraiment heureuse de cet enthousiasme.
Guillemette Odissino.
Non, mais c'est fou que cette dame ait pris l'exemple de Peau d'âne de Jacques Demy, parce qu'effectivement, bon, 1h30 de film pour expliquer ce que c'est qu'un anachronisme, c'est peut-être un peu long, mais moi, c'est comme ça que j'ai expliqué ce que c'était qu'un anachronisme à mes enfants, hein, un hélicoptère au temps des princesses, voilà.
Merci beaucoup, Laurence, de nous avoir appelé de Najac dans l'Aveyron, et continuez comme ça. Et vous, dites-nous quel film vous regardez avec vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces ou élèves, pour leur transmettre certaines valeurs démocratiques et éduquer leur regard. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et bien sûr au standard de France Inter 01 45 24 7000. Une émission préparée par Laure Grand-Besançon et Lorraine Besse avec l'aide de Clara Marlio et c'est réalisé par Jérôme Boulay.
À lire EBI sur France Inter.
Sarah Maison interprétée Western arabisant.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Comment le cinéma éduque nos enfants, c'est notre thème ce matin, en compagnie de l'historienne du cinéma Carole Desbarra, de l'universitaire Perrine Boutin et de la journaliste Guillemette Audicino. Alors, quels sont les grands dispositifs nationaux concernant l'éducation par le cinéma? On a évoqué l'école et cinéma, hein, dont vous êtes acteur. Hein.
Mais oui, il y a donc les dispositifs scolaires qui sont école et cinéma, collège au cinéma, lycéens et apprentis au cinéma, qui sont donc les trois dispositifs qui existent à chaque étape de l'évolution de l'élève. Il existe aussi des dispositifs hors temps scolaire. On départage toujours l'éducation à l'image dans ces deux domaines, puisque voilà, le public captif du scolaire et le public qui n'est pas captif, qui est hors temps scolaire. Et là, il existe pléthore de choses dans des associations, des structures, etc. C'est Passeurs d'images qui coordonnent nationalement beaucoup de ces dispositifs, mais il existe énormément de...
Alors, comment choisit-on les films que l'on montre aux élèves, aux enfants, aux adolescents, Carole
Desbarra? Dans l'école et cinéma ou en général?
En général, mais pourquoi pas en particulier par le biais de votre association?
Alors, en général, je crois qu'il faut faire attention à une chose, c'est que l'enseignant a affaire à un groupe classe qu'il connaît et il est bien placé pour savoir ce que son groupe peut accepter ou ne pas accepter. Et surtout, je crois que la règle d'or, un jour, c'est Daniel Siboni, le psychanalyste, qui nous l'a donné dans une rencontre école et cinéma. Nous faisons des rencontres tous les ans. Il disait « Montrez ce que vous vous sentez capable de montrer ». Ça, c'est très important. Si vous ne vous sentez pas capable de montrer le magnifique film de Denis Gerbrandt, qui est un documentaire tourné dans le pavillon des enfants atteints de cancer à l'Institut Curie, il ne faut pas le montrer parce que vous allez angoisser les enfants. Si au contraire, vous vous sentez capable de le montrer, c'est formidable parce que les enfants, eux, ils sont vraiment de plein pied et ils reçoivent le film, comme disait Perrine Boutin. Ça, c'est en général cette question de se sentir capable d'eux. Si vous avez une angoisse, il n'y a pas de problème, elle va rejaillir sur les enfants. Ça, c'est la première chose. Plus généralement, mais plus précisément sur école et cinéma, et collège et lycée, c'est la même chose, il y a des instances nationales, c'est très très cadré. Et c'est important pour les enseignants, ça. Parce que parfois, vous avez des parents qui protestent, on pourra peut-être en parler. Mais en tout cas, c'est très important de savoir que ces instances nationales, elles ont des représentants du CNC, du ministère de l'Éducation nationale, de la culture, des professionnels du cinéma et des enseignants. 21 personnes pour école de cinéma. On voit les films tous ensemble dans une salle, très important, hein, l'expérience. Et ensuite, on s'arrache les cheveux et on se discute comme des... C'est terrible parce que chacun défend le film en disant il peut être montré à un enfant ou pas.
Est-il possible de commencer cette éducation par le cinéma dès la classe de maternelle, Perrine Boutin? Trop souvent, on sous-estime les capacités des tout-petits en la matière.
Très, 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 très... Oui, franchement, oui. Je fais même actuellement quelque chose dans la crèche de mon petit, où je présente des films, des tout-petits.
À la crèche?
À la crèche.
Et qu'est-ce que vous leur montrez à la crèche?
Oh, des tout-petits films de 10 minutes. Hein. Mais ça marche du tonnerre. Et en maternelle, les enfants de cinéma essayent de monter le dispositif à l'échelle nationale maternelle et cinéma. Il manque encore la volonté politique pour appuyer ce dispositif, mais on a évidemment que ça marche. École et cinéma touche et touchait les grandes sections de maternelle et y a un engouement pour ce type de dispositif parce que ça permet effectivement aux instituteurs de s'emparer de quelque chose que les enfants adorent.
Enfin, et quel est le but de montrer des films à la crèche ou à la maternelle? Qu'est-ce qu'on éduque à cet âge-là?
On éduque à voir ensemble, déjà. Qu'est-ce que voir ensemble? Qu'est-ce que réagir à des émotions collectivement? Comment l'autre réagit face à des mêmes images qu'on voit? S'approprier ça, se voir ensemble, déjà. Mais aussi voir, écouter aussi ensemble, s'écouter les uns les autres. Et ça, c'est très important. Et voir aussi ensemble des choses qui vont... On comprend la diversité, la pluralité des interprétations.
Tous les élèves ont-ils accès au dispositif de l'éducation par le cinéma, par exemple dans les zones rurales, dans les quartiers populaires? Alors, Carole Desbarra.
Dans les zones rurales et quartiers populaires, les dom-tom, oui. C'est-à-dire que, par exemple, les écoles et cinémas se trouvent sur 95 départements, ce qui est quand même beaucoup. Ça touche à peu près un petit peu moins de 900 000 élèves, ce qui est quand même pas mal. On peut dire qu'il y a à peu près 35 000 enseignants, plus de 11 000 écoles en France. Donc, ça touche tout le territoire, sauf un ou deux départements. Maintenant, c'est vrai que tout le monde ne fait pas école et cinéma. Et que si c'était le cas, il y aurait beaucoup plus que 35 000 enseignants. La qualité d'école et cinéma, c'est que c'est fondé sur la volonté des enseignants. Ils sont, au départ, ils souhaitent faire ça. Et donc, c'est la différence avec quelque chose qui serait généralisé.
Quelle est la position des parents sur cette éducation par le cinéma? Certains parents peuvent estimer que ça se fait au détriment du travail scolaire, Perrine Boutin.
Alors, on est de plus en plus confrontés à la censure parentale, effectivement.
Ça se passe comment?
Ça se passe par des lettres, ça se passe par des interpellations.
Mais censure sur quoi?
Sur les films qu'on montre.
Par exemple, donnez-nous un exemple concret, précis.
On va vous en donner.
Ça, il y a eu un grand...
Il y a Tomboy, par exemple, qui a posé énormément de problèmes à sa sortie, puisqu'il est sorti en plein mariage pour tous. Polémique sur cette question.
Il s'agit de racontez-nous le pitch du film.
C'est l'histoire d'un enfant, qui par mégarde se fait passer pour un garçon et du coup va jouer le jeu de garçon alors que c'est une petite fille. Et du coup, pendant toute l'histoire, ses camarades croient que c'est un garçon et à la fin, on va comprendre que c'est une petite fille. Et ça se passe vraiment à hauteur d'enfant. Les enfants adore ce film, mais il a posé énormément de questions aux parents, aux associations contre le mariage pour tous, etc. Parce que ça joue sur les questions de genre, tout simplement.
Tomboy de Céline Sciamma, sorti en 2011.
Mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que je vais vous donner quelques exemples délibérément aux extrêmes. Par exemple, dans Les Demoiselles de Rochefort, un parent n'a pas supporté la rime suivante. Notre mère voulait, faire de nous des érudites et pour cela vendit toute sa vie des frites. Ça, c'est une rime qui peut passer. Mais quand ensuite une des deux demoiselles demande à sa sœur « Est-ce que tu ne trouves pas que ça fait un peu pute ?» Le mot « pute » a été relevé par un parent qui est venu protester auprès d'un enseignant. Les vacances de Monsieur Hulot. Monsieur Hulot boit. Il boit un cognac. Chantons sous la pluie. Film extrêmement subversif, comme vous savez. Il y a un moment donné où, comme vous le savez, Debbie Reynolds sort d'un gâteau et elle porte une tunique, elle a les jambes nues et un parent a voulu que son enfant n'assiste pas à la projection.
Bonjour Véronique, vous appelez de Montpellier.
Bonjour.
Bienvenue. Alors, vous essayez d'éduquer également vos enfants à travers le cinéma?
Maintenant, ils en sont assez éduqués tout seuls, mais ça remonte à 95. Hein. C'était la sortie de toute la suite des Toy Story.
Ouais, les studios Pixar. Donc,
pardon ?
Des studios Pixar.
Oui, moi j'ai découvert ces films alors que mes fils les voyaient pour la première fois, évidemment. Enfin, c'était des premières visions. Et quand je me suis rendu compte qu'eux riaient au premier degré, et puis moi au premier degré, plus le second degré, parce que j'avais les références. J'avais, quand Zorg est poursuivi, quand Zorg, qui ressemble en fait à Dark Vador poursuit Buzz qui lui est Luke et quand la déclaration qu'il lui fait c'est je suis ton père, c'était extraordinaire et je me suis dit à ce moment-là que mes garçons auraient toutes les références que je pouvais saisir et c'est devenu une habitude à la maison que de regarder énormément de films et de se cultiver réellement.
Et de discuter, et de discuter après.
Ah oui, de discuter et puis de leur montrer les références, de leur faire comprendre que les idées viennent, s'enchaînent, qui a une forme de génération dans le cinéma. Voilà, et c'est devenu très très riche à la maison. Et aujourd'hui, en fait, ils sont pas tous les trois. Enfin, il y en a un qui fait ses études en BTS cinéma, l'autre qui fait du théâtre, et le dernier qui est encore un petit peu jeune, mais qui est dans la créativité aussi énormément.
Merci beaucoup Véronique d'avoir appelé depuis Montpellier. Alors ce qui est formidable, quand on regarde un film dans le cadre scolaire ou extrascolaire, ce sont les conversations que le film provoque. C'est important d'échanger, de partager après le film sur le contenu et sur la forme évidemment, Guillemette Audicino.
Ah oui, alors il m'est arrivé, moi, j'avais été invitée dans l'école de ma fille pour parler de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Et alors déjà, c'est extraordinaire parce que la plupart des élèves, il faut l'avouer, n'avaient vu que la version Disney. Hein. Donc, soudainement, de voir juste des bras sortir d'un mur avec des candélabres et tout, et qu'on leur explique ce trucage tout simple, mais réellement merveilleux et tout, ils se sont dit, ah tiens, un film en noir et blanc, finalement, ça peut être amazing. Hein. Et surtout, après, et alors il y avait beaucoup de jeunes filles dans cette classe, après mes énormes discussions sur la notion de, moi j'aurais préféré rester avec la bête sous sa forme de bête, moi j'aurais préféré rester... Mais tout ça, ça nous a ouvert une conversation, surtout bêtement, quelle est la vraie beauté, la beauté intérieure. Et... Mais ça a mené une conversation philosophique à laquelle... Pratiquement, je ne m'attendais pas, mais sur la notion de couple, d'engagement, enfin, c'était absolument magnifique, quoi.
Sur la conversation, la discussion que suscite un film auprès des enfants et des adolescents, Perrine Boutin.
Effectivement, tout à l'heure, quand en écoutant Guimet, je me suis dit, effectivement, il y a le voir ensemble et il y a en parler, évidemment. Mmh. Et les enfants parlent énormément des émotions qu'ils reçoivent en voyant ces films. Et le fait de parler de choses extrêmement... Mais en classe de maternelle, les enfants, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack, discutent de la couleur du puits. Dans la, ouais. Et il y en a qui disent que c'est jaune, l'autre que c'est vert. Ils sont dans des détails qui sont incroyables, qui sont d'une précision folle et qui nous font revoir le film d'une autre manière.
Carole Desbarra.
C'est-à-dire qu'il y a deux degrés. Il y a la nécessité vraiment de parler des films après visionnement, parce que parfois, des choses qui, nous, adultes, ne nous touchent pas du tout, ont terrorisé un enfant. La mort d'un chien dans le coin gauche de l'écran qui ne vous a pas du tout marqué va l'empêcher de dormir. Donc c'est vrai que c'est important d'en parler. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est un développement de la personnalité. Et comme le disait Perrine, il voit des choses extraordinaires, mais il voit le détail. Et c'est vrai que du coup, ça rentre là dans la question de l'éducation. Ils battent les adultes à plate couture, hein. Ils ont tout vu. Nous, on n'a pas ce degré de précision. En revanche, il se passe exactement la même chose que dans la lecture de textes. Vous pouvez avoir des contresens majeurs parce que les enfants sont partis sur une hypothèse de lecture qu'ils vont consolider contre le film lui-même, comme nous-mêmes, hein, comme les adultes. Et c'est là qu'effectivement, quelque chose du moment en classe, après, ou en classe ou ailleurs, après la projection, est utile. Parce qu'il faut en rester quand même à ce qu'il y a dans le film et pas délirer dessus. Et ça, c'est un vrai apprentissage.
L'éducation au cinéma, ça passe aussi par la salle de cinéma, aller en classe, en salle de cinéma, et pas simplement regarder un film dans la salle de cours, Perrine Boutin.
Effectivement, sortir de la classe, sortir du cadre scolaire, aller ensemble à pied, en bus, en métro, etc., dans un lieu qui est autre que la salle, que la classe, arriver dans une salle de cinéma qui est un lieu de luxe, au velours, rouge, etc., s'asseoir, apprendre à regarder ensemble, apprendre à être en collectif avec d'autres classes, etc., c'est quelque chose qui est vraiment une sortie au sens littéral du terme, et une sortie de soi, une sortie avec sa classe, et c'est vraiment très important.
Guimet Odissino.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord, et ça marche aussi évidemment en famille.
Bien sûr.
Vous pouvez demander à beaucoup de vos amis parents, leurs enfants, la plupart du temps, se souviennent d'un film qu'ils ont vu en famille au cinéma. Après, sur les films qu'ils ont vus en vidéo, souvent c'est très flou, ils ne se souviennent plus vraiment à quel moment, à quel âge, il y avait qui dans le salon, c'est beaucoup plus flou. En revanche, le film, ou les premiers films importants qu'ils ont vus au cinéma, ça ils peuvent vous situer, mais le jour, l'heure, la rue, ils peuvent tout vous dire là-dessus. Donc aussi, ça fabrique des souvenirs, le cinéma. Des souvenirs de films, des souvenirs artistiques, mais des souvenirs de vie. Et ça c'est quand même c'est précieux.
Absolument. Dans quelques instants, nos invités nous proposeront quelques films à regarder avec vos enfants afin de leur transmettre quelques valeurs et éduquer leur regard. Nous attendons vos témoignages par courriel Grand Bien Vous Fasse à radiofrance.com et au standard de France Inter 01 45 24 7000.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
John Travolta et Olivia Newton-John, la BO de Grease avec une chorégraphie de Guillemette Simon en studio.
Ali Rebbi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
10h38, comment le cinéma éduque nos enfants à l'école et en dehors de l'école, hein, c'est notre thème ce matin, en compagnie de l'historienne du cinéma Carole Desbara, de l'universitaire Perrine Boutin et de la journaliste Guillemette Audicino. Carole Desbara, le cinéma permet de dispenser une éducation morale aux enfants sans être trop lourdingue. Prenons l'exemple du Kid de Chaplin. On entend la musique là, du
oui,
Kid.
Oui, tout à fait. Le Kid de Chaplin, c'est un film magnifique à montrer en ce moment. Il y a 15 ans, je ne me serais pas battue pour montrer le Kid. Mais en ce moment, je trouve que c'est vraiment important. D'abord parce que c'est un film sur la pauvreté et la misère. Parce que ça montre comment les gens peuvent avoir du mal à manger, à trouver de quoi survivre, comment un père qui éduque plutôt bien son enfant lui apprend à casser des vitres pour que lui-même vitrier puisse les remplacer, ça c'est une chose, et puis que ça montre aussi cette chose extraordinaire qui est l'affection extrêmement forte entre un père et un fils. Et dernière chose pour moi, que je trouve en ce moment indispensable, c'est ces plans dans lesquels on voit Charlot être absolument compétent dans le nourrissage et l'élevage de son enfant. Il plie des langes, il fait à manger sans se poser de questions, il est complètement compétent. Et on est en 1921, on ne se pose pas la question de savoir si c'est un homme ou une femme, il faut s'occuper d'un enfant, il le fait. Ça, c'est vraiment bien.
Et un film comme Le Kid de Chaplin suscite l'empathie. Perrine Boutin, l'empathie, c'est l'un des moteurs de l'éducation par le cinéma. Grâce au film, les enfants, les adolescents peuvent repérer les émotions des autres, comprendre les relations sociales par le biais d'une histoire comme Le Kid.
Tout à fait. Oui.
Sur l'empathie.
L'empathie, un vaste mot, un très beau mot, et qui est effectivement très important aujourd'hui dans cette ambiance compliquée actuelle, et apprendre à comprendre son empathie, à pouvoir le transmettre et à pouvoir se l'approprier, c'est important effectivement. Mais
oui,
c'est vraiment important parce qu'en fait il faut faire la différence entre l'empathie et la sympathie.
Oui.
La sympathie, c'est être en fusion avec quelqu'un. Vous n'apprenez pas grand-chose. Vous êtes en fusion avec cette personne, c'est très bien, mais ça ne va pas plus loin. L'empathie, c'est un processus que les neurocognitivistes mettent en avant, même si Rousseau avait parlé de ça au XVIIIe siècle. Mais les neurocognitivistes nous ont appris à comprendre qu'en fait, c'était faire un pas de côté. C'est essayer de comprendre ou de ressentir ce que l'autre veut dire ou bien ressent. C'est-à-dire que c'est une ouverture à l'altérité. C'est pour ça que, oui, c'est important en ce moment de s'intéresser à la question de l'empathie.
Guillemette Audicino.
Oh mon Dieu, oui. Alors, s'intéresser aux autres, aussi prendre en compte la différence, toutes les différences. Et il y a énormément de films, heureusement, qui traitent de ça. Par exemple, montrer à ses enfants Édouard aux mains d'argent. En quoi quelqu'un de différent va être à la fois intégré, puis rejeté, puis finalement finira seul. Le chagrin qu'ils éprouvent, mais de manière empathique, pour Édouard, quand il est obligé de se retirer de cette communauté qui peut ressembler à beaucoup de, comment dire, à la France en ce moment, par exemple, ça, c'est quelque chose qui les marque. À partir de là, on peut leur dire que la différence doit être acceptée, qu'ils doivent être, comment dire, bien recevoir l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, sa couleur, même s'il n'a pas de doigts.
Mais le cinéma à l'école forme des citoyens, développe ce qu'on peut appeler des émotions démocratiques, mais certains peuvent se dire, certains parents, ben voilà, là, une mainmise idéologique à travers, sous couvert de montrer des films, on suscite voilà, des options politiques idéologiques opposées à ceux des parents, par exemple. Ça peut être aussi mal pris par les parents, qu'on puisse les éduquer de cette manière-là, les enfants.
Vous savez, moi j'ai une grande allergologue dont le cabinet est du côté des Champs-Élysées qui m'a expliqué un jour qu'elle avait protesté contre le prof de littérature de sa fille en seconde parce que la fille lisait un livre absolument insupportable. Je lui fais raconter le livre, c'était Colomba de Mérimée. Donc, ça va très loin, si vous voulez. Je pense qu'il faut peut-être repenser la place de l'institution scolaire qui représente la République française, dont les programmes sont faits par un ministère et pour tous les enfants qui sont sur le territoire. Il faut peut-être se remettre dans ce cadre-là.
Mais vous avez évoqué tout à l'heure des intrusions parentales sur le programme de l'éducation par le cinéma. C'est de plus en plus présent et ça va l'être de plus en plus.
Oui, mais il faut lutter contre. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, la première façon de lutter contre, c'est d'écouter les parents. C'est de les rencontrer, d'entendre ce qu'ils ont à dire. Quand ils vous disent que c'est pas possible que leur fils voit Jason et les Argonautes parce qu'il y a des squelettes dedans, leur montrer que c'est des squelettes totalement artificiels et rigolos et que donc l'enfant ne va pas avoir peur, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est leur rappeler que les films ont été choisis dans le cadre institutionnel de commissions nationales et que ça fait partie d'un programme de l'éducation.
Ils mettent au décideur.
En fait, c'est peut-être les parents qu'il faudrait éduquer au cinéma.
Perrine Boutin.
Oui, bien sûr. Aussi. Il faut tous. La question de l'empathie.
Ça va faire du boulot. S'il faut commencer par les parents pour qu'après on fiche la paix aux gosses.
Alors, le cinéma transmet des valeurs éducatives, morales, mais c'est d'abord un art. L'éducation par le cinéma, c'est aussi une éducation artistique, une éducation du goût, Carole Desbarra.
Oui, tout à fait. Avec la liberté absolue, y compris pour les mômes d'école et cinéma, de ne pas aimer un film, de s'ennuyer à un film. C'est un droit d'aimer des nanars. Je suis sûre qu'autour de la table ici, nous avons tous des nanars favoris.
Bien sûr, même vous, évidemment, Ali. Bien sûr.
Et que donc, il ne faut pas regarder de haut cette question-là. Mais ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'école, c'est en revanche faire que le goût de chacun s'affine, qu'on sache pourquoi on aime les choses.
C'est éduquer le goût, mais pas forcément le bon goût.
Voilà.
Guillemette Audicino.
Ah, je suis tout à fait d'accord. D'autant que, à l'école sûrement, mais même en famille, souvent quand on veut amener son enfant à voir un film, ou ne serait-ce que l'asseoir sur le canapé pour par exemple regarder un classique, il est toujours bon au début de commencer par une petite comédie un peu cool, et après on glisse doucettement vers... Il ne faut jamais... Si on les attache au radiateur, c'est foutu. Hein. Donc il faut à la fois accepter de regarder avec eux pour la 12e fois le même dessin animé qu'ils adorent, et puis faire... C'est vraiment une histoire de dialogue. C'est « Je regarde à nouveau La Princesse Machin avec toi, mais s'il te plaît, est-ce que tu ne veux pas regarder avec moi ?» Tiens, hop, comme ça, je mets un petit titre, Du silence et des ombres, qui est, là, pour le coup, sur la tolérance, un film merveilleux. Si les parents gueulent contre ce film, là, je ne comprends pas.
Est-ce que vous constatez que l'éducation par le cinéma favorise l'esprit critique? Vous le voyez s'aiguiser
Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous enseignez, alors là, plus précisément, je vais faire appel à ce qui se passe dans les lycées, dans les options où on enseigne carrément le cinéma, vous voyez en 3 mois, 4 mois, 5 mois, les jeunes qui vous disent ça, mais je ne regarde plus les films de la même manière. Et ça veut dire, je ne regarde plus YouTube de la même manière. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'effectivement, on n'est pas simplement dans l'image cinématographique, mais il faut aussi compter sur toute la culture des enfants. Les enfants ont une culture visuelle énorme et il ne faut pas la négliger. Donc, ils ne voient pas les séries de la même manière.
Perrine Boutin, vous allez dans son sens?
Oui, tout à fait. Oui, exactement.
Mi mamma mi ha detto.
Un giorno che portiamo le Perrine Boutin, dans le cadre des enfants de cinéma, pourquoi aimez-vous présenter Où est la maison de mon ami de l'Iranien Abbas Kiarostami, sorti en 1987?
Parce que c'est le film qui m'a fait aimer et faire ce que mon métier, c'est-à-dire de former des jeunes qui vont eux-mêmes éduquer à l'image.
Qu'est-ce que raconte ce film en quelques mots?
C'est l'histoire d'un petit garçon qui cherche la maison de son ami, comme le titre l'indique. Pendant tout le film, il va chercher la maison de son ami pour essayer de l'aider à faire ses devoirs. Parce que sinon, il va se faire gronder par son professeur le lendemain matin.
Qu'est-ce qu'ils apprennent les enfants en regardant ce film d'Abbas Kiarostami? Quelles sont les vertus éducatives de ce film?
Vertus éducatives, tout simplement, effectivement, moi, c'est un film qui m'a fait comprendre que l'autre, qui était dans un langage que je ne connais pas, qui était un petit garçon, dans un pays que je ne connais pas, dans des cultures que je ne connais pas, rien, me faisait être en empathie, là, pour le coup, totalement avec lui. Et j'ai compris à quel point l'autre pouvait me ressembler totalement, alors que c'était l'étranger complet.
Carole Desbarra.
Mais justement, j'aimerais vous lire ce que Charles Julliez, le grand poète, avait dit lors des 20 ans, la fête des 20 ans des enfants de cinéma. Nous avions demandé à des gens qui aimaient les enfants de cinéma de venir avec un extrait de film.
Je rappelle que c'est votre association.
Oui, tout à fait. Et il était venu avec un extrait du début de « Où est la maison de mon ami ?». Et il avait parlé de ça en disant que cette histoire était une histoire de dévouement et de générosité. Et peut-être plus encore, tant ce dévouement montre que cet enfant a conscience de la conséquence que serait un renvoi pour son ami, il ne va pas cesser de penser à cela. Une marque de maturité, de prise de conscience, de responsabilité de sa part qui est très belle. Et pendant que l'extrait passait, moi j'étais en face parce que j'animais la soirée, et dans l'obscurité, la semi-obscurité de la salle, je voyais la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, se ratatiner dans son fauteuil en se disant « mais c'est pas possible, comment il montre quelque chose aussi brutal aux enfants ?» Parce que c'est vrai qu'au début, la séquence où le maître menace l'enfant est très brutale. Mais précisément, c'est ça qu'on fait dans l'éducation au cinéma. Après, on en parle avec les enfants. Et quelque chose de la différence entre l'enseignement dans d'autres pays et chez nous se fait jour, et surtout l'empathie avec cet enfant.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously. For Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Un extrait de Chantons sous la pluie, Perrine Boutin, vous éprouvez beaucoup de plaisir à montrer aux enfants Chantons sous la pluie de Stanley Donen en 1952 avec Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor.
Oui, c'est un film qui me donne une pêche incroyable et qui donne une pêche à chaque fois que je présente ce film, ma journée se
et au-delà de ça,
au-delà de ça,
les vertus éducatives.
Les vertus éducatives, c'est le plaisir.
Ah ben oui, tout simplement. Vous avez raison. Vous avez raison. Clara Marlieu, vous êtes en stage dans notre émission. Chantons sous la pluie vous a vraiment éduqué dans tous les sens du terme.
Complètement. C'est déjà une rencontre à 5 ans, un film que je regardais en VO, mais en fait. J'avais pas besoin.
En VO à 5 ans, mais bravo.
Mais j'avais pas besoin. Les images, le chant, la danse étaient en fait pour moi suffisantes. Et ce film m'a accompagnée toute mon éducation et toute ma vie universitaire. J'ai fait des dossiers sur la comédie musicale, sur Chantons sous la pluie, sur tout ça. Donc c'est vraiment un film. Et comme l'a dit Madame Perrine Boutin, c'est vraiment un film qui, moi, par exemple, la musique, je l'écoute. Mmh. Je mets le disque de la bande-annonce. Mmh. Et ça m'éclaire. Et c'est vraiment un film qui me rend heureuse, en fait.
Ça a éduqué votre regard aussi ?
Complètement.
Pourquoi ?
Car c'est un film, au-delà de la danse et du chant, de la comédie musicale, c'est un film qui raconte le tournage d'un film. Et ça, ce qu'on appelle un métafilm, c'est vraiment fascinant.
Ça, vous l'avez placé, ça, métafilm.
Je l'ai placé. C'est vraiment, on est vraiment sur comment un film se construit. Et donc, ça nous dit quelque chose du cinéma, de la construction d'un film et justement de la valeur des images.
Merci Clara Marlieu, en stage chez nous dans Grand Bien Vous Fasse. Guillemette Odissino, dans le cadre du festival Cinéma Télérama Enfants, parents et enfants pourront découvrir Tout en haut du monde. C'est un film qui vous tient à cœur, de Rémi Chaillet. Pourquoi ? Et quelles sont les vertus éducatives de ce film ?
C'est un film d'animation donc qui est sorti en cours d'année, de Rémi Chaillet. C'est l'histoire de Sacha. Mais en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est obstinée. Et ça, c'est important. Elle est obstinée au point qu'elle va aller au bout du bout de la banquise. C'est une jeune fille russe, de l'aristocratie russe. Elle va aller tout au bout du bout de la banquise pour retrouver un bateau. Et pour ce faire, elle va commander à tout un équipage de marins, donc on peut dire qu'ils ne sont pas forcément cordiaux. C'est à la fois un film féministe qui dit aux petites filles qu'il faut rester droite et que quand on a une idée, une belle idée, il faut la tenir jusqu'au bout.
Le Festival Cinéma Télérama Enfants, ça commence aujourd'hui, ça se termine.
C'est du 15 au 28.
Merci beaucoup Carole Desbarra d'être venue, et ainsi que Perrine Boutin. Les enfants de cinéma, il y a un site où on peut...
Tout à fait, les enfants de cinéma.
Il y a des ressources documentaires
Absolument, on met sur le site les éléments pédagogiques que nous mettons à disposition des enseignants. Et il y a une plateforme numérique qui vient de naître, qui s'appelle Nanook, en hommage à Nanook Leskinon.
Ça s'écrit comment ?
N-A-N-O-U-K, qui elle est destinée aux enseignants et aux enfants.
Merci beaucoup d'être venu à suivre Il était une fois dans le web de Julia Foyce. Yvonne Briou interpréter Monet.
Once upon a time.
Il faut garder le contrôle à tout prix.
Il était une fois dans le web.
Bonjour Julia Foyce.
Bonjour Ali.
Alors cette semaine dans Il était une fois dans le web, vous évoquez une créature qui devrait être interdite au moins de 18 ans, ouais. Figure culte des films d'horreur, les clowns tueurs qui ont traumatisé des générations d'enfants.
C'est ça.
À la faveur des réseaux sociaux, ils se refont une belle santé. C'est l'histoire que vous nous racontez ce matin, Julia, et qui nous amène droit aux États-Unis, Caroline du Sud, pour être précis.
C'est l'histoire d'un clown qui aimait les enfants. Il les aimait si bien qu'il les voulait saignants. On est dans le creux d'août, en plein cœur de l'été. Seuls les ventilateurs trouvent la force de bouger. Ici, à Greensville, le temps s'est comme figé. On attend simplement qu'arrive la rentrée. On regarde le soleil comme il va se coucher. Il fait une nuit très noire quand commence cette histoire. Au fond d'un petit jardin, le jardin de derrière, celui où traînent les jouets qu'on veut voir prendre l'air. Par ici, un vélo crevé. Par là, une tête de poupée. Au milieu, tout au fond, comme il est drôle, ce clown qui regarde la maison. Masque blanc, perruque rouge, en silence, il avance à sa main. Une chaîne bouge, clic, clic. Ça fait comme ça à chacun de ses pas. Doucement, mais sûrement, il va vers la maison. Il n'est pas seul, non. Juste à côté de lui, son compère, son ami, qui porte une étoile noire au beau milieu du front. Il regarde droit devant, tout droit, vers la maison. À la fenêtre, un petit garçon, 8 ans, de des bonbons, lui disent « Viens, viens mon mignon, viens donc prendre un bonbon ». Le petit garçon prend peur, dit non, tourne les talons, fonce dans le salon, avertir ses parents. Oh, comme il a raison. Ni une, ni deux, on prend le téléphone, on compose le 17, la police se tient prête. Les sirènes hurlent au loin, elles déboulent, billes en tête, elles foncent dans le jardin. Plus rien, des clowns, plus de traces, elle repart de guerre lasse. Le petit garçon file se coucher, la police rentre dépitée, son téléphone, lui, ne cesse de sonner. C'est que le clown tueur continue de frapper, du moins, c'est ce qu'on croit, du moins, c'est ce qu'on voit. Un soir, sur un parking ou à l'orée d'un bois, il déboule, se tient quoi ? Il sourit, c'est affreux. Et puis surtout, ses yeux tout petits, si perçants. Ou alors non, ils sont grands, mais injectés de sang. La rumeur se propage et bien vite, on partage sur les réseaux sociaux des photos, des vidéos, des montages souvent, mais qu'importe. Juste derrière la porte, le clown semble posté, prompt à faire remonter nos peurs les plus profondes, nos cauchemars les plus sombres. Vous savez bien ce qui, quand on était tout petit, nous faisait vérifier avant d'aller se coucher s'il n'y en avait pas un sous notre lit caché. Ces clowns de cinéma, ce Joker, le ça de Stephen King qui nous ont tenus éveillés de longues nuits, des années. Et maintenant, les revoilà plus réels que jamais, incroyables mais vrais. L'été les a ramenés. En quelques semaines à peine, ils se sont répandus. On les a vus de nos yeux vus dans une trentaine d'États, la Floride, l'Iowa et même l'Alabama, des plaintes, des signalements. Des je vous jure, monsieur l'agent, il tenait une machette. Celui-là avait une camionnette. Il était avec des enfants, je crois bien qu'il les a fait monter dedans. Septembre, c'est la rentrée. La peur continue de grimper. La police tente de calmer le jeu, ne prend pas ça très au sérieux. Aucune plainte ne donne suite. Faute d'éléments, pas de poursuite. Octobre finit par arriver. Aucun suspect n'est écroué. Pas une victime à déplorer. C'est un complot, c'est sûr. Il faut en prendre la mesure, se défendre, nous, citoyens, quand la police ne fait rien. Alors, un lundi soir d'automne, tout un campus, comme un seul homme, décide de descendre dans la rue. Université de Penn State, Pennsylvanie. Un message sur WhatsApp a suffi. Un autre sur Facebook et paf, c'est parti. Un clown tueur a été vu. Ils vont se faire une battue. Ils sont 10, ils sont 100, bientôt ils sont 500. Batte de baseball, crosse de hockey, ils sont armés jusqu'aux dents. Attirés par les hurlements, les habitants, les passants viennent bientôt grossir leur rang. Des heures durant, ils traquent, ils cherchent ce fameux clown assoiffé de sang. Les étudiants deviennent violents, la police vient les disperser, l'émeute guette, on va sombrer, le campus est confiné. Et le clown, toujours pas retrouvé. Ah si, juste une image projetée sur le mur de l'université. Comme chaque année, la rumeur a fini par dégonfler une fois Halloween passé. Les clowns tueurs, oubliez. Enfin, je serai vous, Ali. J'essaierai, j'éviterai de me retourner.
Il était une fois dans le web tous les mercredis avec Julia Foyce. Demain, on s'intéresse aux parents séparés et divorcés.